À propos.
Ici Danny Buffet, bonsoir. Il y a près d'un an, s'éteignait un grand homme de lettres guyanais. Il s'agit de Léon Damas, ami du président poète Léopold Sédar Senghor et d'Aimé Césaire. Léon Damas nous a légué pigments, veillées noires, graffitis, ainsi que de multiples poèmes, moins connus peut-être, mais empreints cependant de la même vitalité, de la même vigueur intellectuelle. Peu de temps avant sa mort, Léon Damas travaillait à la rédaction de plusieurs ouvrages, et notamment à la préparation d'une histoire sur l'économie et la vie sociale en Guyane. Ardent défenseur de la négritude, il écrivait aussi un livre consacré à ce mouvement, livre intitulé « Notre génération ». Pour nous parler de cet écrivain fécond, je me suis rendue à Howard University, une université de Washington, où il enseignait et j'ai eu le plaisir d'y rencontrer un de ses collègues et amis, le professeur Daniel Racine. Le professeur Racine est titulaire d'une chaire de littérature sur ce campus noir américain. Monsieur Racine, d'après les notes laissées par Léon Damas, avez-vous l'intention, dans un avenir relativement proche, de terminer son œuvre ?
Je n'ai nullement l'intention de terminer l'œuvre de Damas. Je pense que c'est une succession qui serait très difficile et peut-être au-dessus de mes compétences et de mes talents. Mais je m'inspirerai certainement de ses notes pour écrire sa biographie, écrire des commentaires sur son œuvre. Peut-être avec le consentement de ses héritiers, en particulier son épouse, pourrait-on essayer de publier, si vous voulez, les écrits posthumes, avec bien sûr une petite introduction. Ceci évidemment dépendra non de moi-même, mais de ses héritiers, comme je l'ai dit.
Pour certains jeunes Africains, le concept de la négritude est suranné, est dépassé. Que pensait Léon Damas au dernier jour de sa vie de l'attitude de certains jeunes dans ce domaine?
Vous savez, si vous voulez savoir exactement ce qu'il pensait, il faudrait lire l'interview qu'il a accordée à Jeune Afrique. Je crois que c'était en 1969. Et on disait, c'était pour répondre justement à un écrivain martiniquais et qui disait que la négritude est dépassée. Et cet écrivain, je crois, s'appelait Bookman. Et Damas a soutenu fermement que la négritude n'était point dépassée, que, évidemment, avec l'évolution, grâce, n'est-ce pas, à tout ce que tout ce qui s'est accompli après cette grande guerre, n'est-ce pas, en faveur de la négritude dans les années héroïques, dans les années 30, eh bien, avec tout le gain qui a été acquis, bien sûr, on peut dire aujourd'hui que certains peuvent dire que la négritude est dépassée, mais je pense que c'est une question d'adaptation à son époque. La négritude n'est pas ce qu'elle était aux années 30. La négritude est quelque chose qui ne sera jamais dépassé, à mon avis, dans la mesure où c'est l'expression d'une culture, c'est l'expression d'une identité, c'est l'expression de l'homme noir, n'est-ce pas, en tant que tel, c'est son affirmation dans le monde. Et cette négritude conçue de cette façon ne sera jamais dépassée. L'homme noir avec sa valeur culturelle, avec son passé, avec son pays, son environnement, avec son art, sa religion et tout le reste. C'est ça la négritude. Ce n'est pas quelque chose qui était une sorte de mode, n'est-ce pas, de vague à la mode ou de romantisme, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, restera toujours vivace, en tenant compte, bien sûr, de l'évolution de notre monde.
Ce n'est pas un concept figé, par conséquent.
Ce n'est pas quelque chose.
C'est un concept qui va en évoluant.
C'est, si vous voulez, un concept n'évolue pas nécessairement, mais s'adapte, si vous voulez, comme un dogme. Un dogme est toujours le même, mais il s'adapte, n'est-ce pas, à son époque. Il se moule, n'est-ce pas, avec l'évolution du monde moderne. Il rentre dans le contexte des années où on vit.
Quelles sont les retombées politiques que vous percevez à la lumière justement de ce concept?
Je suis mal placé pour parler de la politique, étant donné que je suis, je fais profession, n'est-ce pas, d'homme de lettres, et je dirais même pas d'homme de lettres, de critique, de professeur, et c'est la littérature, mon Dieu, qui est mon domaine, et non pas la politique. Des retombées politiques, évidemment, l'homme, comme disait Platon, est un animal politique, dans la mesure où il vit dans un contexte social, dans un contexte politique. Il ne peut pas ignorer, évidemment, ce qu'on fait dans la cité. Mais je dirais que la négritude, dans la mesure où c'est l'expression d'une culture, d'une race, d'une identité, eh bien, vraisemblablement, les pays, par exemple, qui sont indépendants, pays africains qui sont indépendants, qui étaient des anciennes colonies et qui avaient évidemment des restrictions politiques au moment de la colonisation, eh bien, se sentiraient certainement beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus libres d'exprimer, n'est-ce pas, leur politique, leur culture, leur manière, n'est-ce pas, d'envisager le monde, d'envisager l'avenir, parce que c'est ça la politique, c'est de construire son avenir à la mesure, n'est-ce pas, de ses possibilités et de ses besoins, de sa foi, de ses croyances, etc. C'est Couturé qui disait dans une conférence internationale à Rome, je crois que c'était en 1958, je ne suis pas très sûr de la date, que l'homme, n'est-ce pas, l'homme noir ne pourra affirmer, n'est-ce pas, sa culture d'une manière authentique que dans la mesure où il sera libre politiquement. Et si vous voulez que je réponde à votre question, eh bien je suppose que ceux qui ont en main, n'est-ce pas, leur destinée culturelle, évidemment, sont plus à même, n'est-ce pas, d'organiser leur orientation politique selon leurs propres désirs.
Que pensait Léon Damas de la nouvelle génération?
Léon Damas, ce qu'il pensait de la génération, vous savez, ce serait très difficile à dire dans quelques minutes. Léon Damas était toujours très à l'aise avec la nouvelle génération. Ce n'était pas quelqu'un qui sentait une sorte de rupture, n'est-ce pas, entre sa génération et la nouvelle génération. Il était, comme vous le savez, professeur pendant les dernières années de sa vie. Il était très sollicité dans toutes les universités des États-Unis. Il allait très fréquemment, n'est-ce pas, d'un océan à l'autre, parler de la négritude, parler de son passé, et il passait des heures. J'ai eu des lettres, n'est-ce pas, de témoignages de professeurs qu'il avait invités à parler à leurs jeunes étudiants. Eh bien, les étudiants passaient des heures avec Léon Damas à discuter, quelquefois jusqu'à 3 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin. Alors, ça prouve que, à mon avis, il n'y avait pas d'écart, puisqu'on n'écoute pas quelqu'un qu'on n'aime pas entendre, dont on n'aime pas entendre les paroles, le message, la conversation. En général, on le fuit, eh bien, ce n'était pas le cas. Donc, il se sentait à l'aise avec la jeune génération. Il pensait certainement que, c'était un autre contexte, il y avait d'autres besoins, il y avait d'autres impératifs qui n'étaient pas exactement les mêmes, n'est-ce pas, qu'à son époque. Et si vous me parlez la jeune génération, je vous demanderai de quelle jeune génération? Est-ce celle d'Amérique ou quoi, de la Guyane ou de l'Afrique? Mais enfin, en ce qui concerne l'Amérique, par exemple, eh bien évidemment, le problème noir, il s'est rendu compte que il n'était pas le même qu'il était, par exemple, dans les années 30 ou dans les années 40, dans les années 60. Mais, enfin, les années 60, c'est différent. Il y avait comme une sorte d'affrontement, comme vous le savez, mais Damas était très optimiste en ce qui concernait, n'est-ce pas, l'avenir de la jeune génération, surtout la génération noire, pensait que les choses allaient s'améliorer, que ceux de 60 s'étaient battus aussi presque comme ceux de 30, et que les choses s'amélioraient, n'est-ce pas, de plus en plus.
Léon Damas, c'est un poète, c'est un écrivain, un homme de lettres irremplaçable. Parmi les jeunes poètes, écrivains, antillais ou africains que vous connaissez, quel est celui ou celle qui est susceptible de prendre la relève ou, disons, de prolonger l'œuvre de Léon Damas?
Oui, eh bien, c'est une question à laquelle j'ai pensé. J'étais dernièrement aux Antilles pour justement accompagner les cendres de Léon Damas et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques jeunes écrivains et je pense qu'il y en a en effet qui continuent à porter ce que Damas a appelé la torche de résine, n'est-ce pas? Parce qu'il a son dernier poème posthume, n'est-ce pas? Qui n'a pas publié, mais qui a été depuis évidemment publié sur tous les programmes d'hommage, et qui est un très beau poème, n'est-ce pas? La torche de résine. Eh bien, j'ai rencontré quelques jeunes écrivains qui, à mon avis, continueraient n'est-ce pas, prendrait la relève. J'ai rencontré par exemple un jeune poète de la Guadeloupe qui s'appelle Sonny Rupert. C'est un jeune enseignant qui est, voilà, mais qui a des poèmes qui ressemblent beaucoup à ceux de Pigment. Également, plus âgé, il y a Serge Patient, qui est professeur en Guyane, qui est un poète de talent et très engagé. Il y a aussi un autre jeune poète guyanais qui s'appelle Ellie Stevenson, qui écrit des pièces de théâtre aussi. Et je pense que ces jeunes-là, il y en a d'autres bien sûr, un peu moins importants, mais je crois qu'il y a des jeunes qui continuent sur sa lancée, qui continuent sur sa trace, n'est-ce pas? Et ces jeunes, certainement, sont à son école, je dirais.
Monsieur le professeur, êtes-vous optimiste en ce qui concerne l'avenir des belles-lettres en général?
C'est une question qui est très générale. Je ne sais pas si c'est à moi que vous devriez la poser, mais enfin, je pense que quelqu'un disait, et je crois que c'est Roland Barthes, qui disait que si on devrait supprimer toutes les disciplines, une seule chose devrait être sauvegardée, c'est la littérature. On a aussi dit qu'évidemment la littérature ne nourrit pas son homme. Mais enfin, pourquoi Barthes a dit cela? C'est parce que la littérature, au fond, contient tout. Contient l'âme de l'humanité et contient aussi tout ce que l'humanité peut exprimer. Même, vous savez, les techniciens, s'ils veulent écrire dans un style alléchant, bien, ben, ils peuvent aussi le faire. Il y a des philosophes comme Bergson qui ont écrit dans un style très attrayant, ils ont écrit des ouvrages de philosophie qui pouvaient se lire comme des romans. Donc, je pense
C'est
que.
là le trait de génie.
Pardon?
C'est là un trait de
C'est là un trait
génie.
de génie, bien sûr. Et je pense donc que les belles lettres, comme on l'a dit, ne sont pas en crise, n'est-ce pas? Évidemment, il y a certaines gens qui ne comprennent pas suffisamment la portée des belles lettres, la portée de la poésie, la portée du roman ou du théâtre, mais je pense que il va y avoir évidemment de l'évolution dans tout cela encore, dans l'expression, mais les belles-lettres ne sont pas si en crise qu'on le dit, et l'avenir des belles-lettres est certainement aussi assuré que l'avenir de n'importe quelle discipline, à mon avis.
Une appréciation réconfortante, Daniel Racine, lorsqu'on consulte en diagonale ou en profondeur certains livres de la Nouvelle Vague, mais il est bien évident qu'il faut se garder de généraliser et que parmi les centaines de livres et recueils de poèmes qui sortent chaque année ici ou ailleurs dans le monde, il s'en trouve d'excellents. Monsieur Racine, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce magazine consacré à la mémoire de Léon Damas. Ici, Dany Buffet, bonsoir.